Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant de parler ce soir du Niger avec les 25 classes en paillotte parties en fumée, retrouvons notre invité Décryptage pour parler du Tchad.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Sitak Yomatinan Beni, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes constitutionnaliste et politologue, enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena et à l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Au Tchad, les principaux partis d'opposition dénoncent un coup d'État institutionnel après la prise du pouvoir par un fils d'Ebi, un militaire, après la mort de son père. Pour vous aussi, est-ce qu'il s'agit d'un putsch constitutionnel ?
Au Tchad, nous avons une des rares constitutions de 1996, qui est l'une des meilleures constitutions d'ailleurs consensuelles, puisqu'elle a été soumise à référendum, et donc elle était une bonne constitution. Malheureusement, depuis 2018, le pouvoir en place, le mouvement patriotique du salut, avec à sa tête le président Déby, ils ont fabriqué un petit forum là, ils ont modifié la constitution de 1996, qui est une constitution consensuelle. Ensuite, en 2020, soit un an et demi, ils ont remodifié encore cette constitution, donc nous avons en ce moment une constitution de 2020. Elle est mauvaise, mais c'est elle qui régit la vie actuellement.
Finalement, quelle est la constitution qui prime aujourd'hui au Tchad dans ce contexte ?
Écoutez, c'est la constitution de 2020, qui est en vigueur, mais elle a repris les dispositions de la constitution de 1998. Mais qu'à cela ne tienne, dans la constitution de 2020, il y a deux situations, il y a deux hypothèses. Alors, au cas où le président de la République est momentanément absent, par exemple quand il est en voyage, c'est le vice-président qui assure l'intérim.
Un vice-président qu'on n'a pas pour le moment.
Il n'a pas nommé un vice-président, on ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas nommé. Deuxième hypothèse, dans le cas où le président de la République est complètement empêché décédé, ça c'est le cas actuellement, c'est en principe le président du Sénat qui assure l'intérim. Mais on n'a pas le Sénat et donc dans les dispositions transitoires et finales, il a été prévu que justement toutes les attributions, n'est-ce pas, du Sénat soient gérées par l'Assemblée nationale. Et donc, dans le cadre de espèce, en fait, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait prendre les choses en main pour pouvoir, il a 45 jours, voilà, maximum 90 jours pour organiser les nouvelles élections. Tout le monde parle de coup d'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce coup de force-là, dès que les militaires ont pris les choses en main, ils n'ont consulté personne et ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont dissous la Constitution, ils ont dissous le gouvernement, etc., sans s'en référer à qui que ce soit.
Quelle sera finalement la solution la moins risquée pour la stabilité du Tchad ?
Une bonne partie de l'opposition démocratique condamne premièrement le coup d'État de CMT.
Conseil militaire de transition.
Voilà, qui demande très rapidement qu'on puisse remettre la transition rapidement aux civils.
L'opposition a appelé la population tchadienne à ne pas obéir aux décisions dites illégales, illégitimes et irrégulières prises par le CNT notamment. Mais dans ce bras de fer, qui a le plus à perdre ?
Mais voyez-vous, madame, là, nous parlons de liberté fondamentale. Hein, quand vous comme ça, un groupe, n'est-ce pas, qui n'a aucune légitimité, aucune légalité, etc., commence par restreindre les libertés fondamentales, qui met en place des couvre-feux, c'est-à-dire ont modifié, maintenant, ce n'est plus de 18h, mais c'est de 20h à 5h du matin. Ils viennent d'ouvrir également, de rouvrir également les frontières. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ils disent également au gouvernement, au ministre, n'est-ce pas, d'assurer les services minimums, etc. Donc, ils sont en train de critiquer tout ça. Mais tout ça, ils le font de manière illégale.
C'est dans ce contexte qu'on annonce l'arrivée vendredi à N'Djamena du président français Emmanuel Macron pour assister aux obsèques du président Déby. Qu'est-ce que vous attendez de lui alors que l'opposition a invité le président français à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Tchad ?
Madame, je vais être très clair direct avec vous. Les Tchadiens pensent que la France est vraiment le problème dans ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. Et il y a eu déjà ce soutien, n'est-ce pas, de manière aveugle, n'est-ce pas, au président Déby. Le président Déby qui dit même d'ailleurs à tous les Tchadiens il y a quelques années que lui voulait partir depuis longtemps, mais que la France l'a obligé à rester encore président en lui envoyant un constitutionnaliste qui est venu tout modifier et qui lui a demandé de rester. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Le président devait envoyer même des chars dans la maison, n'est-ce pas, d'un opposant qui déposait, n'est-ce pas, qui a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle. On a tué sa mère. Tout le monde pense ici à N'Djamena que c'est la France de Le Drian qui continue à imposer, n'est-ce pas, le fils de Déby, n'est-ce pas, comme président.
Est-ce que pour vous, docteur Béni, Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu au Tchad vendredi?
Moi, je pense que ça va accentuer davantage les clivages, la violence, la haine, et surtout, et on l'a écouté encore François Hollande, hein, qui disait clairement que c'était important pour la France, c'était la sécurité. Vous avez vu que même d'ailleurs, la France s'est empressée, n'est-ce pas, pour prendre acte, n'est-ce pas, de ce coup d'État. Donc ça veut dire, la France veut faire comme au Togo, comme au Gabon. Il va venir pour enterrer, n'est-ce pas, des vipères et puis adouber, n'est-ce pas, et puis bénir le fils, ainsi de suite. Donc, les Tchadiens ne sont pas dupes, ils sont tous au courant de tout ça.
Est-ce que vous pensez que cette armée est soudée véritablement derrière le fils Déby qui dirige le conseil militaire de transition?
La réponse est non, madame. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, même les bruits au sein de la présidente actuellement, les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas bonnes. Donc, déjà, même le petit groupe, là, qui, le noyau qui a été mis en place, n'est pas compact. Vous savez que le président Déby, il a fabriqué des généraux, donc on a plus de généraux que des soldats ici. Où chacun a des armes, où les armes sont partout dans la ville, je ne pense pas que vraiment nous sommes dans une situation vraiment de paix. Et donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et la France aussi, je pense qu'il faut arrêter, n'est-ce pas, de jouer au pyromane.
Docteur Sitak Yomatinan Beni, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Constitutionnaliste, politologue, enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena et à l'Université catholique de Yaoundé au Cameroun.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et ce soir, nous parlons du Niger. 25 classes en paillote sont parties en fumée il y a une semaine, c'était le 13 avril dernier, suscitant émoi dans le pays tout entier. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon de cet incident et comment éviter de tels drames à l'avenir? Nous en débattons ce soir avec Aboubacar Lalo, qui est secrétaire général de la section du PNDS, le parti au pouvoir en France. Monsieur Lalo, bonsoir. Vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Merci à vous d'être là. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Habibou Kan Kadaoré. Bonsoir, monsieur Kadaoré. Président du comité de coordination du CAP 2021, qui est une coalition de l'opposition. Monsieur Kadaoré, il me semble que vous êtes bien là. Vous m'entendez?
Je vous entends bien, madame.
Bonsoir et bienvenue. Et également avec nous au Niger, Moukaïla Alidou, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB à Niamey au Niger. Monsieur Alidou, bonsoir. Allô, monsieur Alidou. Et nous espérons enfin avoir Haruna Koni, secrétaire à l'organisation du bureau des parents d'élèves et étudiants du Niger, qui est également à Niamey au Niger. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à joindre M. Koni donc pour participer à ce débat. Je voudrais commencer par vous, M. Khalidou, qui est membre de la communauté des enseignants. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà cette école qui est partie en fumée pour qu'on ait une idée de quoi on parle? Allô, monsieur Alidou? Monsieur Alidou, vous m'entendez? Nous pensons qu'on a perdu peut-être monsieur Alidou, qui est pourtant bien en place à l'écran, où j'aperçois bien qu'il est en ligne, mais peut-être en attendant d'entendre monsieur Alidou. Monsieur Aboubacar Lalo, vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien, Liliane.
Alors, dites-nous, comment vous avez vécu cet incident survenu, ce drame survenu il y a une semaine?
Oui, avant de continuer, je voulais formuler quelques propos liminaires pour m'incliner à la mémoire de ces élèves. Je n'ose imaginer, en effet, la douleur des parents, vraiment indicible, une douleur indicible, mais aussi des enseignants. Et comme vous le savez, je suis d'autant bouleversé parce que j'exerce aussi ce métier d'enseignant. Je l'ai exercé au Niger, à Niamey, à Tel Abyed, à Dakoro, etc. Et maintenant, ici en France, où je suis dans l'enseignement et la formation. Donc, c'est d'autant plus bouleversant, justement, donc, cet épisode-là, très douloureux, vraiment pour une école qui part en fumée, justement, donc, et à l'intérieur des élèves. Et moi, je pense qu'il faudra...
Et sur la vingtaine de victimes, 19 étaient des élèves de classe de maternelle, très, oui, en bas âge.
Voilà, donc c'est du préscolaire, donc d'après les informations qu'on a eues. Et donc, il faudra immédiatement donc diligenter une enquête donc pour faire la lumière sur les causes endogènes ou même exogènes hein, de cette tragédie, de savoir ce qui s'est passé parce que nous ne pouvons pas laisser effectivement donc ces genres d'épisodes douloureux un Merci. Peu ternir le monde de l'éducation et éventuellement prendre des mesures conservatoires, pourquoi pas, ou des moratoires. Pour des classes en paillote, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Monsieur Lalo, on va en parler dans un instant. On voulait faire un tour de table là, sur déjà les premières réactions. Et nous essayons toujours d'avoir Monsieur Moukaïla Alidou, non, qui n'est pas en ligne. Fait-on signe jusque-là. Est-ce que Monsieur Haruna Kony est avec nous? Monsieur Kony, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bienvenue, secrétaire à l'organisation du Bureau des parents d'élèves et étudiants du Niger, à Niamey, donc la capitale nigérienne. Monsieur Lalo vient d'exprimer son émotion et sa tristesse après ce drame. Vous, en tant que membre de l'association des parents d'élèves, quel est l'état d'esprit des parents aujourd'hui, après cet incident?
Vraiment, nous sommes tous pris dans un... Et je reste tellement douloureux de voir toute cette jeune génération périr d'un seul coup. Et vraiment, et ça nous a tous endeuillés, ça a endeuillé tout le pays, d'ailleurs, ça a endeuillé tout le monde. Parce que les enfants, on ne sait pas de quoi ils sont à leur adolescence, ce qu'ils seront. Vraiment, ça a un truc qui a touché tout le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir que. Nous, en tant que parents d'élèves, que ce sont des trucs sur lesquels nous nous plaignons depuis un certain temps, et d'ailleurs depuis que les classes paillotes ont commencé à pleuvoir dans ce pays.
Oui, on parlait justement de trois incidents du genre dans la même école en 2 ans.
Oui, c'est-à-dire, et vous n'êtes pas sans savoir, même aujourd'hui, ou plus ou moins dit hier, il y a eu un autre établissement qui a été brûlé hier.
Une autre école en paillotes.
Oui, une autre école en paillotes.
Merci. Oui, terminez vos propos et après on écoute M. Alidou.
Allô?
Oui, M. Kony, terminez vos propos, s'il vous plaît.
J'ai dit maintenant, à part ces deux écoles, et d'ailleurs, c'est 4 écoles d'ailleurs. À Niamey, il y a eu 3 écoles qui sont brûlées dans la même semaine. Et aujourd'hui, matin, on m'a fait apprendre qu'il y a une école vers Tanout, dans la région de Diffa Zender, qui est elle aussi qui a brûlé comme ça.
Merci beaucoup, M. Kony. M. Moukaïla Alidou, vous m'entendez cette fois?
Oui, bonsoir, je vous reçois maintenant.
Voilà, secrétaire général, je le rappelle, du SINACEP, c'est le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à quoi ressemblent ces écoles en période dont on parle?
Oui, au fait, il faut dire que ce ne sont pas les écoles qui sont en paillote. C'est des écoles qui ont également des classes en matériaux définitifs. Mais la plupart des classes que nous avons dans ces écoles sont des classes paillotes. Malheureusement, du fait de la démographie dans notre pays et du fait de la forte concentration des populations, principalement dans la capitale Niamey, et je voudrais rappeler quand même que si nous sommes arrivés à ce phénomène de classes paillotes, c'est parce que les sites qui sont réservés à la construction de ces écoles ont été morcelés par les différentes politiques qui sont succédées dans notre pays au profit des hommes politiques. Aujourd'hui, de telle sorte que nous n'avons plus d'espace pour construire des écoles et la population ne fait que s'agrandir. Donc le besoin y est, mais malheureusement, il n'y a plus d'espace pour faire, en tout cas, pour construire ces écoles. Et c'est ce qui fait cette forte concentration.
Merci beaucoup. On va venir tout à l'heure aux causes dans la suite de ce débat. Rassurez-vous, M. Alidou, sur comment en est-on arrivé à ces écoles en paillote qui pullulent un peu dans la capitale nigérienne. Donc, on va écouter à présent M. Kadaoré. Vous êtes là? Allô, M. Kadaoré?
Allô, oui, je vous reçois.
Oui, votre réaction suite à cet incendie, vous venez d'entendre M. Haruna Kony dire que cette semaine, hier encore, il y a eu d'autres actes similaires.
Oui, effectivement, ça, c'est un cycle qui ne finira pas aux citoyens s'il n'y aurait pas véritablement une volonté politique d'en finir avec tout ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai déjà...
Alors, M. Kadaoré, bon, on l'a perdu. Retour avec vous, M. Alidou. Alors, dites-nous, comment en est-on arrivé à ces écoles en période? Vous commenciez déjà à expliquer que les sites réservés à la construction des écoles ont été morcelés et vendus pour la construction d'habitations. Mais en dehors de ça, quels sont les autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec autant d'écoles en matériaux provisoires et avec à la clé ces drames dont on parle?
Oui, rassurez-vous, j'emboîte le pas à M. Kadaoré. C'est une mauvaise politique éducative que nous avons. Les autorités en place ont toujours prôné et ont toujours, en tout cas, vendu au peuple nigérien le fait de construire des écoles avec des classes en matériaux définitifs. Les promesses ont été faites de construire plus de 2500 classes, je me rappelle, par l'ancien président de la République, le président Issifou, par an. Malheureusement, aujourd'hui, quand on se retrouve dans cette situation, on se rend compte que c'est juste des promesses politiques qui ont été faites. Rien du tout, rien de sérieux n'a été fait. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens n'accordent pas une importance à l'école publique nigérienne. Les gens ont délaissé complètement l'école publique nigérienne. Et c'est ça le résultat que nous avons aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Koyini parlait des classes, des écoles incendiées. Mais c'est que hier, nous, on était déjà sur place lorsque nous avions eu l'information. Une autre école qui avait brûlé, 9 classes étaient parties en fumée. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines là-bas. Mais le drame du 13 passé, et certainement qu'il vous l'avait dit avant que je ne reçois sur l'antenne, plus de 20 élèves ont été calcinés, n'est-ce pas, dans cet incendie-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de mesure pour nous dire voilà exactement ce qui s'est passé et voilà comment le fait a été déclenché. Et surtout que ces écoles sont contiguës à des habitations, à des sociétés. Eh bien, il faut qu'on craigne tout ça là. Donc pour moi, aujourd'hui, si je dois parler de ce qui nous a amené dans cette situation, je vais vous dire que c'est véritablement parce qu'il y a une mauvaise politique, n'est-ce pas, éducative, mais c'est parce qu'il y a un délaissement total des autorités parce que l'école publique nigérienne aujourd'hui est réservée à l'école, est devenue l'école des enfants des pauvres et aucune autorité ne s'intéresse véritablement au mot qui assaille l'école publique nigérienne.
Merci.
Voilà, si vous voulez. Voilà.
Merci. On va laisser M. Aboubakar Lalo répondre, d'autant plus que M. Bazoum s'est positionné dans la continuité de son prédécesseur Mamadou Issoufou.
Oui, j'ai entendu mes prédécesseurs effectivement asséner certaines affirmations. Là-dessus, moi je voulais revenir. Effectivement, le président Bazoum a pris la mesure, effectivement, de tout ce qui ne va pas dans l'école nigérienne. Et ce n'est pas pour rien, justement, dans son programme, il a défini effectivement que l'éducation est une de ses priorités, et peut-être même la priorité avec la sécurité. Et là-dessus, je pense que le président Bazoum, en tant qu'enseignant aussi, comme nous le sommes ici, donc a pris la mesure.
Et ça, c'est pour le long terme. Ça, c'est pour le long terme, M. Lalo. Alors maintenant, on a affaire à cet incendie qui est régulier. Mais peut-être, vous pouvez nous dire déjà, on parlait aussi des causes. Est-ce qu'on a pu savoir aujourd'hui d'où, qu'est-ce qui explique ces incendies fréquents?
Moi, je voulais vous dire effectivement qu'il faudra immédiatement diligenter donc des enquêtes pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, parce que là jusqu'à présent on spécule, justement on fait des plans sur la comète et éventuellement prendre des mesures conservatoires ou moratoires pour toutes les classes en paillotte. Pour revenir donc de ces classes en paillotte là, si vous voulez la genèse donc de ces classes en paillotte, moi je les ai connues dans les années 90. Il faut savoir que à l'époque, donc ça date de plus de 30 ans, et maintenant les classes en paillotte forment près de 40% du parc immobilier de l'éducation. C'est qui est beaucoup, c'est qui est trop. Et cela est dû au fait que, comme vous le savez, dans les années 90, le programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, qui a été imposé à l'État nigérien à l'époque, mettait donc l'accent sur les infrastructures. Donc il fallait parer au plus vite justement donc à cette démographie-là dont parlait un de mes prédécesseurs. Effectivement, moi en tant que géographe aussi et démographe, donc je connais bien, puisque 750 000 élèves, donc enfants, chaque année sont sur le marché de l'éducation. Donc il faut les éduquer, donc c'est 750 000 enfants. Et là-dessus, justement, donc, c'est un défi. Et je vous parlais donc du FMI et la Banque mondiale. Il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, il y avait ce qu'on appelait la double vacation, le double flux dans les écoles primaires. Et là-dessus, ça a désarticulé dans les années 80-90 et même dans les années 2000 plutôt, donc l'éducation au Niger.
Merci beaucoup.
Moi, je pense qu'au lieu de...
Merci beaucoup. On va poursuivre encore dans un instant. On vous laissera conclure, M. Lalo.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Au Niger, 25 classes en paillotte parties en fumée il y a une semaine. Les parents demandent à savoir ce qui s'est réellement passé. Et nous en débattons ce soir avec quatre invités. Aruna Kony, secrétaire à l'organisation du bureau des parents d'élèves et étudiants du Niger. Moukaila Alidou, secrétaire général du SINASEPS, le syndicat enseignant. Habibou Khan Kadao Kadouré, qu'on va écouter dans un instant. Il est président du comité de coordination du CAP 2021. Coalition de l'opposition, et Aboubakar Lalo, secrétaire général de la section du PNDS en France, c'est le parti au pouvoir au Niger. Monsieur Lalo, vous parliez tout à l'heure du programme d'ajustement structurel qui a désorganisé l'éducation. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il va falloir s'attendre encore à assister à ces écoles en paillotte sur la durée?
Non, je pense que c'est pas l'objectif du président Bazoum. Comme je vous l'ai dit, il a pris la mesure effectivement donc de cette désarticulation, mais aussi de ces insuffisances là. Et le président Bazoum, dans son programme justement, préconisait la construction et l'équipement de 2500 classes en matériaux définitifs par an. Donc là-dessus, je pense que il faudra d'une manière ou d'une autre.
Excusez-moi, et comment comptait-il procéder lorsque les enseignants, on a entendu le syndicaliste dire ici que les terrains réservés à la construction des écoles ont été morcelés et vendus aux particuliers par des hommes politiques. Il y a bien d'autres causes qui ont conduit à cette situation. Comment va-t-il s'y prendre?
Oui,
est-ce qu'on va récupérer ces terrains vendus au privé?
Justement, Liliane, je voulais en revenir là-dessus sur un peu la responsabilité des municipalités. Les municipalités, je pense qu'ils ont une responsabilité dans beaucoup d'autres domaines aussi, hein, puisque voilà, donc ce sont des municipalités qui ont été élues à l'époque, et dont lorsqu'on sait que depuis presque 20 ans, 30 ans, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme que nous appelons le SDO, effectivement, où le plan d'occupation du sol, justement, n'est pas respecté dans beaucoup de villes au Niger. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'espaces, justement, qui sont réservés. Des espaces réservés, ça peut être, justement, un espace de loisirs, ça peut être une école, ça peut être un dispensaire, etc. Et très souvent, on a vu, justement, donc, certains édiles, effectivement, procéder à la vente, donc, de ces terrains-là. Il nous faudra effectivement revenir là-dessus, mettre l'accent, mettre le haut là, justement sur ces municipalités-là, sur ces maires-là, qui s'adonnent donc à ces actes délictueux pour qu'il n'y en ait plus de ça.
Merci, M. Lalo. On a retrouvé
un espace.
Oui, M. Lalo, vous avez longuement eu la parole. On va permettre à M. Kadaoré, que nous avons pu retrouver, de s'exprimer. On l'avait perdu tout à l'heure. Monsieur, vous êtes là? Allô? Monsieur Kadaoré, vous m'entendez? C'est dommage qu'on ne puisse pas l'entendre. Pourtant, il est bien positionné à l'écran. Alors, monsieur Aruna Kony, vous m'entendez?
Ok.
Je ne sais pas qui... Est-ce que c'est monsieur Kadaoré qui m'entend là, cette fois? Non, on me dit non, pas du tout pour le moment.
Non, et... c'est Aruna.
Oui, monsieur Aruna, je reviens à vous. Rassurez-vous, on va vous faire réagir tout à l'heure sur les promesses que vient de faire monsieur Lalo. Mais peut-être déjà dites-nous sur l'enquête, vraiment un mot. Qu'est-ce que les autorités vous ont dit? L'enquête a été ouverte il y a une semaine. Que sait-on aujourd'hui de cette investigation?
Oui, effectivement, l'enquête poursuit son cours, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est que un ou deux jours après, chaque fois, il y a un autre incendie qui se qui se propage dans la ville de Niamey ou dans les autres villes du pays. C'est ça qui nous inquiète.
Quand vous dites vous inquiète, c'est-à-dire quoi? Vous pensez qu'il y a, il y a le Premier ministre qui s'était rendu à l'école Pays-Bas et qui n'excluait pas la piste criminelle?
Bon, ça, c'est trop tôt pour le dire, parce que tant que l'enquête n'est pas terminée, pour savoir quelle est la cause de ce truc-là, mais nous, on ne peut faire que des spéculations. Quand vous regardez, aujourd'hui, c'est pays, hier, c'est Pays-Bas, aujourd'hui, c'est... Et là, ça lague, un autre jour, ça sera quelque part, ça fait peur. Et surtout que, si vous avez vu ce qui s'est passé hier, c'était pire que l'incendie du Pays-Bas. Heureusement, pour nous, il n'y a pas eu de perte à vie humaine. Vraiment, les gens se sont débrouillés, ils ont fait évacuer tous les enfants.
Merci.
Et ça fait peur quand même.
Les parents ont-ils peur d'envoyer leurs enfants à l'école dans ces conditions?
Mais on est obligé parce qu'on veut que nos enfants étudient. Mais on a eu la fois avant-hier, on a eu à rencontrer le nouveau gouverneur de la ville de Niamey, qui est un enseignant de carrière, qui nous a dit aussi de la même manière que le président a pris l'engagement de s'occuper de l'école nigérienne dès ses premières années, lui aussi, il fera tout dans la ville de Niamey. Il verra par comment on va faire pour éliminer la ville de Niamey avec les classes qu'on élimine les classes maîtres de la ville de Niamey.
Donc vous êtes optimiste sur ces promesses des nouvelles autorités de faire disparaître le plus tôt possible ces écoles en Payotte?
Oui. Comme c'est la parole d'un enseignant de carrière, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un de plus touché de cette affaire comme un enseignant, de voir des écoles brûlées, à part l'investissement qu'on a fait, les fournitures, table, banc, tout ça, des trucs, et juste avoir la mort des enfants.
Merci, M. Kony. Monsieur Alidou. Allô, M. Alidou.
Oui,
je voulais vous demander la même chose. Est-ce que vous en savez un peu plus sur l'enquête qui a été ouverte sur le cas de l'incendie de l'école de Pays-Bas?
Non, malheureusement, on n'est pas dans le secret de l'enquête. Nous, c'est peut-être à la fin qu'on peut avoir les conclusions de l'enquête. Et puisque jusqu'à ce moment précis, les résultats ne sont pas encore officiels, rien n'a été déposé officiellement par rapport à cet incendie des Pays-Bas, nous ne pouvons que souhaiter que cela puisse arriver le plus tôt que possible. Parce que tout à l'heure, comme il l'a dit, ce qui craint, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que quand vous prenez l'incendie du Pays-Bas, des écoles Pays-Bas, c'est arrivé au moment où les élèves étaient en classe. Hier encore, au niveau de l'école Quadro 1 à Talagé, c'était presque à la même heure, aux environs de 16 heures moins que l'incendie a été déclenché. Donc aujourd'hui, on craint fort effectivement cette piste, même si nous n'allons pas guider les enquêteurs. Mais j'ai dit, est-ce que quelque part, ce n'est pas une piste criminelle? Est-ce que quelque part, ces incendies ne sont pas criminels? Lorsque c'est pendant que les élèves sont en classe, que le feu se déclenche, cela doit quand même nous donner beaucoup à réfléchir.
Donc, maintenant, enseignants comme élèves ont peur.
Mais écoutez, moi je dois vous le dire, aujourd'hui en tant qu'organisation syndicale, les parents d'élèves nous ont approchés pour nous dire qu'aujourd'hui ils ont la main au cœur d'envoyer leurs enfants, surtout les enfants qui sont dans des classes payantes. Les parents aujourd'hui se posent la question, est-ce que véritablement leurs enfants peuvent continuer encore à aller à l'école? Hier nuit, vers 2h du matin, je vous dis, vers 2h du matin, une vieille dame m'a envoyé un message vocal pour me demander d'informer le gouvernement, de demander au gouvernement de fermer toutes les classes payantes jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution alternative. Donc voyez-vous qu'aujourd'hui, les parents ont véritablement peur de vouloir envoyer leurs enfants à l'école et ça handicape aujourd'hui le système éducatif nigérien.
Donc,
si on arrive à ce point, c'est extrêmement compliqué pour nous.
Donc, on comprend qu'il est urgent aujourd'hui de détruire ces écoles en Payotte pour avoir des écoles en matériaux définitifs.
Bien sûr.
Et justement, à ce sujet, M. Alidou, que pensez-vous de la promesse de l'engagement qu'a pris le président Bazoum et que vient de réitérer M. Lalo? On sait que votre syndicat, le syndicat, a demandé déjà, c'est une vieille revendication, que soit mis fin à ces écoles en matériaux précaires.
C'est vraiment une vieille revendication de notre organisation. Et tout à l'heure, M. Lalo l'a dit, le président Bazoum a pris des engagements. Mais je l'avais dit tout à l'heure, le président Issoufou, l'ancien président, en 2011, avait pris également les mêmes engagements. mais malheureusement, il n'a pas tenu ses engagements-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous ne souhaiterions pas que les promesses du président Bazoum également puissent tomber à l'eau. Il ne faut pas que ça soit juste des promesses électorales, que ça soit juste des promesses politiques. Il a promis, je connais bien M. Bazoum, je le connais assez, et je suis convaincu que s'il se donne, il peut arriver. Et pire, je dois vous dire, quand je parlais de mauvaise gouvernance tout à l'heure, il y a des écoles de la capitale Niamey, en matériaux définitifs, qui ont été détruites et vendues à des opérateurs privés. Je prends l'école le cas de l'école Terminus.
Oui, oui, vous l'avez dit, et je crois à ce sujet, M. Lalo a répondu en disant qu'on va récupérer.
Non, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des places réservées, je ne parle pas des places. Je parle d'écoles déjà fonctionnelles, d'écoles qui existent, des vieilles écoles qui existent en plein centre-ville de Niamey. L'école Terminus, certainement que M. Lalo connaît, l'école Terminus 1 a été vendue à une école privée, une université privée, et on a détruit les classes en matériaux définitifs au profit d'une école privée. Ce qui n'est pas normal dans un pays normal. Ça ne peut pas quand même se comprendre. Au moment où le besoin s'est fait sentir de mettre fin à la construction des classes payantes et qu'on se retrouve dans un état où on détruit des classes en matériaux définitifs juste parce qu'on veut donner l'espace à un opérateur privé. Ça n'a pas quand même de sens.
Merci.
Je pense que c'est tout ça là qu'il faille corriger. Et c'est pour cela que la semaine passée, excusez-moi, nous avons
terminé
un communiqué. Oui, et dans ce communiqué, nous avons demandé au président Bazoum et à son gouvernement de faire en urgence que nous puissions nous retrouver et faire des propositions concrètes pour mettre fin à la situation des classes payantes dans notre pays.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Lalo, que répondez-vous à tous ces griefs au-delà de ces aspects? On parle aussi de mauvaise gouvernance, que les budgets alloués à l'éducation ont été détournés par certains ministres sans être inquiétés.
Certains ministres qui, par exemple?
C'est ce que des syndicats ont relaté, de même que la société civile, en disant que cette situation est due à une bonne partie à la mauvaise gouvernance et au manque de rigueur dans la gestion des fonds alloués aux écoles.
C'est que le monde de l'éducation, je le connais aussi bien que donc mon compatriote qui venait de parler. Depuis 30 ans, 40 ans, on est en train de subir effectivement donc cette désagrégation de l'école nigériane. Et là-dessus, comme je vous l'ai dit, le président Bazoum a sa porte ouverte donc à tous les syndicats pour qu'ils viennent discuter avec lui. C'est un enseignant, donc ils peuvent se comprendre et ils vont se comprendre. Et là-dessus, les engagements pris par le président Bazoum, je pense que ce sont des engagements clairs et ce sont des engagements pragmatiques. Il va aller jusqu'au bout, il va recruter de nouveaux enseignants, il va construire des nouvelles classes donc en matériaux définitifs, comme je l'avais dit, à la suite de ce que le président Issoufou a fait. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait, c'est pas vrai, c'est faux. Donc, on ne peut pas dire ça intellectuellement parlant. C'est pas
mais est-ce que, M. Lalo, il ne manque pas quand même de prévision?
Voilà, je voulais qu'on ne crée pas une sorte de psychose. Et notre syndicaliste, justement, donc, de manière un peu lénifiante, donc, il aborde un peu ce côté psychose. Je pense que c'est un domaine qui est assez sérieux pour qu'il n'y ait pas ni récupération, ni propagation de psychose. Et là-dessus, je pense que nous devons tous travailler pour une école nigériane, mais vraiment une école nigériane dont le président Bazoum veut. Et justement, en privilégiant l'éducation de la jeune fille, là vous avez vu, il a fait de ça aussi une priorité, parce que c'est là où le bas blesse. Beaucoup, justement, de jeunes filles abandonnent ce qu'on appelle le taux d'achèvement, justement, les
détails. Monsieur Lalo, pardonnez-moi, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Oui. On parle bien de l'école en payotte. On aura peut-être l'occasion de parler de taux de scolarité de la jeune fille. Mais je voulais, s'il vous plaît, que vous me permettiez poser cette question. Vous avez parlé tout à l'heure de la démographie galopante, notamment dans la capitale nigérienne. À l'indépendance, en 1960, le cycle primaire comptait 183 écoles et si je m'en tiens aux chiffres du journal Le Sahel, qui est le quotidien gouvernemental, je crois, en 2019, on estime à 824 le nombre d'écoles primaires aujourd'hui. Donc cela veut dire que les gouvernements qui se sont succédés savaient très bien qu'il y a cette réalité de la démographie. Pourquoi on n'a pas anticipé? Il y a quand même manque de projection et de prévision.
moi, je peux vous dire que le tournant a été, je pense, un peu raté dans les années 80, à la fin des années 80-90. Et là-dessus, je suis mieux placé pour vous le dire, effectivement, que à cette époque-là, il n'y a pas eu beaucoup de construction de classes. Et comme le programme de la Renaissance, parlons-en du président Youssoufou, c'était plus de 5000 écoles. C'est plus de 5000 écoles primaires qui ont été créées, 1900 établissements du préscolaire qui ont été créés. Et là-dessus, moi, je pense que sur le plan démographique, on est l'un des pays, effectivement, où la croissance démographique est la plus forte au monde. Comme vous le savez tous, c'est 7,9 enfants par femme et c'est 3,9% de croissance démographique. Et là-dessus, si nous ne faisons pas attention, je pense que nous avons tous une responsabilité commune pour essayer d'élever cette école-là que nous avons connue, vraiment une école de bonne facture. Avec,
merci. Merci. Je suis encore obligé de vous interrompre, Monsieur Lola.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Au Niger, comment éviter à l'avenir la mort d'élèves dans des classes en paillote? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Moukaila Alidou, secrétaire général du syndicat enseignant, Aruna Koni, secrétaire à l'organisation de l'association des parents d'élèves, et Aboubakar Lalo, secrétaire général de la section PNDS en France. C'est le parti au pouvoir et nous sommes sincèrement désolés de ne pouvoir joindre M. Habibou Kan Kadaoré, président du comité de coordination du CAP 2021, coalition de l'opposition. Malgré tous nos efforts et notre insistance, nous n'arrivons pas à entrer en contact avec lui. Je vais vous laisser conclure, Monsieur Lalo, avec cette question, puisque vous insistez sur cette croissance démographique qui serait à l'origine de cette explosion au niveau de nombre d'élèves, d'où ces écoles en paillote à problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les politiques éducatives ne se sont pas adaptées à cette croissance démographique?
Je pense pas que c'est une question d'adaptation. Il y avait à un certain moment dans les années...
Mais tout au moins d'anticipation alors.
Voilà, à la fin des années 80-90, je pense qu'il y avait un problème de moyens. Parce que sans moyens, on ne peut pas créer les classes, on ne peut pas recruter les enseignants. Et on ne peut pas aussi recruter, comme vous l'avez vu maintenant avec les contractuels. On a un ami contractuel avec nous, je pense. Et là-dessus, il peut nous le dire. Donc, je pense que là, les moyens ont manqué. Et comme vous le savez, nous, depuis pratiquement 2013, depuis l'entrée en guerre du Niger contre Boko Haram, le budget de l'éducation nationale, qui devait être encore plus élevé de 25%, a été réduit parce qu'il y avait l'effort de guerre justement à assurer, puisque la sécurité maintenant au Niger fait plus de 17% du budget national. Donc, il faut savoir que plus de 750 000 élèves, comme je l'ai dit, rentrent dans le marché de l'éducation. Donc, il fallait le faire. Et ces classes-là, justement, il faut avoir les moyens, justement, depuis plus de 30 ans, il faut toujours avoir les moyens, justement, de les construire. Merci. Et là-dessus, ce qui n'a pas été fait. Et je pense juste un dernier mot. Le président Bazoum, il a fait de l'éducation sa priorité. Et il a même mis que l'éducation sera un domaine réservé du président de la République. C'est la première fois qu'on voit ça.
Merci. On attend de voir. Il vient juste de prendre fonction. On attend de voir ce qu'il en sera. Alors, M. Moukaila Alidou, M. Lola Lalo. Pardon,
monsieur.
D'accord. Peut-être, oui, on verra bien comment, si ces promesses vont être mises en œuvre. Alors, monsieur Alidou, monsieur Lalo lui-même parlait tout à l'heure de 40% d'écoles au Niger qui seraient construites en matériaux provisoires. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de normes particulières et qu'on a l'impression que, comme vous le disiez, il n'y a pas de volonté. On assiste à des classes où les enfants sont entassés. Est-ce que vous pensez que les promesses aujourd'hui faites par le président peuvent être suivies des faits et dans un bref délai?
Oui, vous savez, la problématique des classes paillotes aujourd'hui, elle est vraiment compliquée. je ne répondrai pas à monsieur Lalo qui parlait tout à l'heure de créer la piscose au niveau de la société. Mais si seulement hier il était avec nous lorsque les écoles de Kouadou brûlaient également, ils allaient comprendre le désarroi dans lequel se trouvent aujourd'hui les pères et les mères de famille qui ont leurs enfants dans ces classes payotes-là. Je l'ai dit, vous savez, il y a des normes. Il y a des normes environnementales, des normes pédagogiques et des normes, n'est-ce pas, à respecter pour la construction des classes, pour la construction des écoles. Pour construire une école, je l'ai dit avant-hier, il faut avoir un périmètre, un site de 2,5 hectares. Malheureusement, aujourd'hui, l'école, comme vous prenez les écoles de Pays-Bas qui ont pris feu la semaine passée, c'est 4 écoles qui se trouvent sur un site de 750 mètres carrés, 4 écoles. Je dis bien 4 écoles. Alors qu'une seule école doit occuper 2,5 hectares. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Donc aujourd'hui, il ne suffit pas de créer des écoles. Il faut créer certes des écoles, mais il faut rendre ces écoles opérationnelles.
Oui,
il faut
que ces écoles respectent. Excusez-moi, monsieur Alidou. Oui, on a bien compris que ces écoles, la Payotte, ne respectent aucune norme, mais il y a des promesses qui ont été faites par le président Bazoum. Monsieur Lalo vient de le dire. Est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, il va pouvoir rattraper le retard? Est-ce que vous croyez vraiment à ces promesses?
Vous savez, on ne peut pas juger le président Bazoum tout de suite. Il a pris fonction, ça ne fait même pas un mois. Aujourd'hui, il a pris des engagements. Il a pris des engagements très forts. Il a pris des promesses, n'est-ce pas? Il a fait des promesses, j'allais dire.
Et c'est ce que et même au niveau de la bonne gouvernance, il a dit qu'il sera implacable contre les délinquants.
Nous serons prêts à être avec lui dans le cadre de cette bonne gouvernance et aussi de la qualité tant recherchée pour l'école publique nigérienne. C'est ça notre devoir. C'est ça notre rôle.
Et qu'est-ce que les syndicalistes attendent de lui aujourd'hui comme mesure d'urgence face à ce phénomène d'école en paillotte?
Ce que nous attendons du président Bazoum à l'heure actuelle, c'est qu'il va falloir que très rapidement que lui et son gouvernement arrivent à s'organiser et à trouver une alternative par rapport à ces classes paillotes-là. On ne peut pas finir avec la construction des classes paillotes tout de suite et maintenant. On ne peut pas. Mais j'ai dit, on peut réduire aujourd'hui ces classes paillotes-là. Et il suffit juste de mettre les moyens et il suffit juste de mettre un accent particulier par rapport en tout cas à la vision de l'école publique nigérienne. Aujourd'hui, ce qui a manqué depuis plusieurs années, depuis plus de 30 ans, c'est la question de la politique éducative de notre pays.
Mais lorsque il explique qu'il y a aussi des urgences sécuritaires qui ont fait que le gouvernement a dû réorienter son budget en mettant la priorité sur la défense.
La question sécuritaire, c'est arrivé avant-hier seulement, à partir de 2013. Mais avant 2013, on avait des classes paillotes. Depuis les années 92-93, on a commencé à connaître les classes paillotes dans notre pays. Le double fil dont il parlait tout à l'heure, M. Lalo, c'est effectivement des exigences parce que les infrastructures d'accueil n'existaient pas. Il y avait plus d'élèves que d'infrastructures d'accueil. C'est ça qui nous a amené au double fil.
Merci
donc aujourd'hui,
beaucoup.
Je pense que le président Bazoum, il avait dans ses promesses parlé de la construction des internats pour les filles, mais je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord de sécuriser les élèves. Au lieu de parler d'internat, il faut d'abord créer les conditions de sécuriser les élèves en mettant fin à la construction des classes. En ce moment, on peut revenir à la construction de ces internats-là pour les filles.
Merci beaucoup. Monsieur Kony, est-ce que vous avez, en tant que parent, l'espoir que vos enfants vont être vont fréquenter dans de meilleures écoles demain avec des écoles qui représenteront moins de risques que celles en paillotte auxquelles on assiste aujourd'hui?
Merci. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être aussi en paix que les parents d'élèves d'avoir leurs enfants dans des classes en matériaux déficitaires. Vous n'êtes pas sans savoir, sans me tromper, je suis contraire de vous dire que plus de la moitié des classes paillotes même qui sont faites dans les établissements sont confectionnées par les parents d'élèves. Donc,
ce sont les parents d'élèves qui les financent.
Laisser aller au niveau du... Oui, effectivement. Et à part ça, et si on veut que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse, il faut construire des classes en matériaux définitifs et sécuriser les établissements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir... Si on fait le tour des établissements, plus ou moins dit, Niamey, la capitale du Niger, là où on va trouver un vrai gardien dans un établissement, on ne peut pas le trouver dans la moitié des établissements qui se trouvent dans la ville de Niamey. Parce que les gardiens sont là, ce sont des laissés-aller qui se font dans les établissements. Donc, quand on regarde le...
J'ai entendu un parent dire que leurs enfants sont entassés un peu comme du bétail dans les salles, sans aucune sécurité.
Mais c'est ce que je vous dis. Même les quelques classes paillotes, quand vous regardez,
plus de 90% des classes peut-être ont été confectionnées par les parents. Vous voyez?
Merci beaucoup.
Moi, je pense qu'avec avec un petit appui de l'État, je pense qu'on peut faire quelque chose de bon. Et comme le président Bazoum l'a annoncé, et on a eu la certitude de la même promesse avec le gouverneur de la région de Niamey qu'on a rencontré avant-hier.
Merci beaucoup. Vous avez donc l'espoir. Merci beaucoup, monsieur Haruna Koni, secrétaire à l'organisation du bureau des parents d'élèves étudiants du Niger. Et merci à Moukaïla Alidou du syndicat enseignant et à Aboubakar Lalo, secrétaire général de la section du PNDS en France. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir.